Le 21e épisode des Gilets jaunes, des rassemblements partout en France, notamment à Paris, où deux manifestations ont été déclarées. Le secteur des Champs-Élysées reste interdit. Gare à la banalisation du sida, c'est le mot d'ordre du 25e SIDAction jusqu'à demain soir. Le virus est toujours là et continue de tuer. Invité de ce journal, Aurélien Beaucamp, le président de l'association Aide. Dans ce journal également, les commémorations du génocide au Rwanda, c'était il y a 25 ans. Le rôle joué par la France reste toujours aussi controversé. La commission de chercheurs voulue par Emmanuel Macron est un progrès, nous dira Bernard Kouchner. Les loyers trop chers à Berlin comme à Paris, des associations demandent la remunicipalisation des logements vendus au privé et les Allemands manifestent aujourd'hui. Le choc des gros dans le top 14, Toulon-Toulouse, tout à l'heure au stade Vélodrome à Marseille, le stade toulousain qui est revenu cette année dans la cour des grands. Des auteurs italiens à découvrir au menu du festival Italissimo à Paris, c'est le conseil week-end d'Ilan Amor-Youssef. Et puis la météo, ambiance ensoleillée sur une grande partie nord et est, des averses qui s'installent dans le sud-ouest et sur les bords de la Méditerranée. Pour commencer, ce n'est qu'un bye-bye, brothers, petit salut amical aux vacanciers britanniques ce matin en gare de Bourg-Saint-Maurice, d'où le dernier Eurostar de la saison est parti. Les maires des stations de Haute-Tarentaise se sont donné le mot pour saluer l'une des clientèles les plus importantes de Savoie. Une petite trentaine d'habitants sont également venus faire une haie d'honneur au sujet de Sa Majesté, et même monsieur le curé Geoffroy, dont l'accent est d'ailleurs impeccable.
It's just a matter of peace. Union. C'est important d'être là, enfin, c'est, pour notre économie, c'est simple à dire, mais c'est une population importante. Et puis donc, pour moi, en tant que prêtre, ce qui est surtout important, c'est qu'on favorise de partout l'union, cette communauté bah, qui nous apporte quand même pas mal de paix. Même si économiquement c'est pas top au niveau international, au niveau de la paix c'est quand même bien. Enfin j'y crois et je le veux. Moi-même ayant fait des études et travaillé en Angleterre, j'ai un petit penchant affectif très fort pour les Britanniques.
Qu'est-ce que vous craignez avec le Brexit ?
Je crains surtout que pour la Grande-Bretagne, ce soit un éloignement et une mise à l'écart politique, économique, sociale. Ici, je pense que ça ne changera pas grand-chose à la présence des Britanniques qui viennent. Je crois que c'est l'ébranlement aussi de notre Europe et l'Europe a vraiment besoin d'exister dans ce monde.
Curé de la Haute-Tarentaise au micro de Nathalie Grinspan. Des gilets jaunes dans les rues de France à nouveau ce samedi pour le 21e épisode d'un mouvement commencé le 17 novembre. De nombreux appels à se rassembler ont été lancés sur les réseaux sociaux à Lille, Toulouse, Bordeaux ou Rouen. À Paris, deux manifestations ont été déclarées en préfecture, de République à la Défense d'une part, de Montparnasse à la Villette d'autre part. Le secteur des Champs-Élysées reste interdit. Comme les deux samedis précédents, Rémi Brancato, vous êtes sur la place de la République où plusieurs centaines de personnes sont déjà rassemblées.
Oui, la place de la République se remplit doucement de jaune au milieu des stands de merguez, des drapeaux bleu, blanc, rouge et des désormais habituels pancartes en faveur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Quelques centaines de manifestants, donc pour l'instant, c'est ici l'un des deux cortèges déclarés en préfecture, vous l'avez dit, et les manifestants ont prévu de se rendre dans le quartier d'affaires de la Défense. Louise, professeure des écoles dans le Val d'Oise, en fait partie.
C'est quand même là où il y a les grosses entreprises, les gros sièges sociaux, donc c'est pour ça qu'on va à la Défense. Parce que la plupart du temps, c'est elles qui font les évasions fiscales pour payer moins d'impôts. Donc les grosses entreprises, elles s'en mettent plein les poches et elles essayent de payer le moins possible. Nous, ça ne dérange pas en soi qu'il y ait des grosses entreprises qui aient plein d'argent, mais qu'elles participent à la vie du pays en payant leurs impôts de manière normale.
Louise a dessiné 20 traits exactement sur son gilet. C'est le nombre de manifestations auxquelles elle a participé. Toujours aussi motivée, dit-elle. Même s'il y a eu une petite victoire cette semaine, la censure partielle de la loi anti-casseur par le Conseil constitutionnel, c'est insuffisant pour les manifestants comme Sandra, venue de Troyes.
On peut même pas dire que c'est une petite avancée, c'est rien quoi. C'est la loi complète qu'il fallait retirer de toute façon. On n'a pas le droit de venir masquer ou autre, admettons, enfin moi ça me gêne pas. Mais le fait d'interdire la manifestation, c'est inadmissible.
Et les manifestations sont interdites dans le quartier des Champs-Élysées pour le troisième samedi consécutif après les dégâts du 16 mars dernier. Aujourd'hui, on est bien loin de la mobilisation qu'on a connue ce jour-là quand les Gilets jaunes avaient convergé de toute la France vers la capitale. Un autre cortège déclaré doit partir de la gare Montparnasse cet après-midi. Et pour le moment, celui-là ne rassemble que quelques dizaines de manifestants.
Rémi Brancato, place de la République avec Christophe Papon. Pendant ce temps, se tient à Saint-Nazaire l'Assemblée l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Plusieurs dizaines de délégués venus de tout le pays pour débattre de la suite et tenter d'enraciner le mouvement dans la durée. Pourquoi pas à l'occasion des municipales de 2020 auxquelles certains proposent de participer. Des listes Gilets jaunes aux européennes n'ont pas été possibles. Des listes aux municipales pourraient donc voir le jour. Retour en prison pour les deux pilotes d'Air Cocaïne arrêtés en 2013 en République dominicaine. 700 kilos de cocaïne à bord. Ils avaient été condamnés à 20 ans sur place avant de s'enfuir. La cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence les renvoie derrière les barreaux. 5 autres accusés sont aussi condamnés, notamment le commanditaire de ces transports suspects qui lui écope de 18 ans ferme. À l'étranger, en Libye, faut-il craindre un nouvel embrasement? L'armée du maréchal Haftar, qui tient l'est du pays, a fait mouvement vers la capitale Tripoli où siège le gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Laquelle communauté appelle à cesser immédiatement les combats? Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Dinard soulignent qu'il n'y aura pas de solution militaire dans ce conflit libyen, que seul le processus politique engagé par les Nations Unies permettra de régler. Au Rwanda, c'est donc un député, Hervé Berville, orphelin Tutsi, adopté par une famille française. Hervé Berville, député des Côtes d'Armor, qui représentera la France demain dimanche aux commémorations du génocide. C'était il y a 25 ans, le 7 avril 1994, le début de 3 mois d'horreur pendant lesquels 800 000 Tutsis et Hutus modérés allaient être massacrés à la machette jusqu'à ce que la France intervienne avec retard et après n'avoir officiellement rien vu, rien su. Ce qui pose aujourd'hui encore question, d'où cette commission de chercheurs qu'a mise en place le président de la République en espérant qu'ils pourront faire la lumière sur le rôle exact de la France. Car oui, la France a joué un rôle, explique celui qui fut un peu plus tard ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, en ajoutant qu'il eut un rôle imaginé, un rôle rêvé et un rôle réel de la France. Bernard Kouchner que Nathaël Charbonnier a rencontré.
Quand Bernard Kouchner, député européen à l'époque, parle du Rwanda et de 1994, une chose est sûre, il sait de quoi il parle.
J'y étais, j'étais le seul Français à y être, alors c'était pas difficile de me trouver.
Et l'horreur de ce qu'il a vu était telle que personne à l'époque ne voulait le croire.
Mais monsieur, personne ne voulait m'écouter. Vous comprenez, raconter que les enfants poursuivent avec des machettes leurs voisins de classe jusqu'à le tuer coupé en morceaux, c'est difficile à croire.
Malgré tout, il va tenter l'impossible, mobiliser pour le Rwanda, et pour ce faire, il utilisera tous les moyens, à commencer par celui de sa notoriété.
Et j'ai même été demandé, avec le président Mitterrand, à Nelson Mandela, d'intervenir, d'essayer d'arrêter le massacre.
Mais voilà, le génocide se déroulera inéluctablement jusqu'à la mise en place de l'opération turquoise à l'initiative de la France. L'attitude de la France, justement, pas forcément très nette, mais chut, cela doit rester secret.
Vous savez, j'ai été ministre des Affaires étrangères, j'ai pas eu les archives. Comme par hasard, ça venait pas.
Alors oui, pour toutes ces raisons et d'autres encore, il aurait été bon qu'Emmanuel Macron se déplace à Kigali ce dimanche.
Le jeune président de la République française aurait fait du bien au Rwanda pour le 25e anniversaire d'un énorme génocide.
Et Bernard Kouchner de conclure que pour pardonner, il faut connaître et que dans ce domaine de l'histoire, la France a encore des leçons à apprendre.
Et justement, la commission de chercheurs voulue par Emmanuel Macron, dont certains regrettent qu'elle ne compte aucun spécialiste du Rwanda, c'est quand même un progrès, commente aussi Bernard Kouchner. Et il n'y a pas qu'à Paris que les loyers flambent. En Allemagne, notamment à Berlin, les prix montent aussi inexorablement, au point que plusieurs associations appellent à manifester aujourd'hui à travers le pays contre les expulsions locatives, mais aussi et surtout pour demander l'organisation de référendums au niveau local, des référendums qui proposeraient la remunicipalisation des logements acquis par le privé. Ludovic Piétenu à Berlin.
Elles s'appellent Vonovia ou Deutsche Wohnen et font un peu figure d'épouvantail. Ce sont de très grandes sociétés propriétaires de plusieurs dizaines de milliers de logements.
Je voudrais vous inviter à la manifestation du 6 avril.
Oui, avec plaisir, c'est très bien.
Elle s'appelle Rolanda, elle a 69 ans et comme cette femme qu'elle rencontre, son loyer augmente depuis le rachat de son immeuble. Sa seule pension de retraite ne lui suffit plus pour vivre, elle a dû reprendre un petit boulot et cela fait déjà 2 ans qu'elle et beaucoup d'autres se battent pour obtenir un référendum pour chasser ses propriétaires.
Le titre de la campagne, c'est Deutsche Wohnen und Co. enteignen. exproprié Deutsche Wohnen et Compagnie, c'est-à-dire les grandes sociétés qui ont à partir de 3000 logements.
L'idée a de quoi surprendre, faire revenir dans le giron municipal une grande partie de ces logements achetés par le privé, mais tout est devenu possible quand ces militants ont découvert un article de la loi fondamentale rédigé après-guerre.
Tiens, il y a cet article, c'est génial.
Au même titre que l'eau ou d'autres ressources naturelles exploitées par le privé, le logement peut redevenir un bien commun et cet article autorise la ville à exproprier ces grands groupes. Il y aura d'autres étapes à franchir, le chemin vers ce référendum s'annonce long, mais la colère est si forte que les responsables politiques locaux se disent désormais ouverts à cette solution. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et pour organiser un référendum à Berlin, il suffit de 20 000 signatures, ce qui semble relativement facile.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Un téléphone, le 110, un site mail, sidaction.org. C'est jusqu'à demain soir la 25e édition du Sidaction sur de nombreuses chaînes de télé, de radio. Un rendez-vous devenu tellement habituel qu'on n'y prête plus vraiment attention. Et pourtant, le virus du sida est toujours là. Comme l'ont dit et répété ces derniers jours médecins et responsables associatifs, 25 ans après, le virus concerne encore des millions de personnes dans le monde, 170 000 en France, où 6 000 nouveaux cas de sida sont encore diagnostiqués chaque année. Bonjour Aurélien Bocan.
Bonjour.
Président de l'association AIDE, hein, qui vient en soutien aux malades du sida. Vous aussi, vous la constatez, cette banalisation du sida?
J'ai envie de dire oui, parce que c'est pas nouveau ce qu'on va dire, hein, mais depuis la fin des années 2000, avec l'arrivée de traitements efficaces, des traitements qui permettent aux personnes de vivre correctement, on voit bien qu'on est dans un double langage. On peut plus dire que les personnes meurent du sida, c'est pas vrai. Elles vivent avec le VIH, pour certaines moins bien, mais globalement on a quand même des grosses améliorations. Et de l'autre côté, on a vu en fait une chute drastique des politiques de prévention. D'une part, la prévention primaire au niveau des collèges et lycées, mais la prévention, j'ai envie de dire, avec les grandes campagnes qu'on connaissait auparavant, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui.
Oui, parce qu'il faut le dire, hein, de nouvelles infections chez les jeunes de 15-24 ans sont en hausse de 24% depuis 10 ans, et de plus en plus nombreux de jeunes pensent qu'on guérit le sida avec des médicaments. C'est le comble, hein, compte tenu des moyens d'information dont on dispose aujourd'hui.
Bah, c'est complètement ça. Après, comme je le disais, le premier niveau de la FISE, de la prévention primaire au collège et lycée, aujourd'hui, elle existe, mais elle est quasiment inexistante par rapport à ce qu'on pouvait retrouver il y a 15-20 ans. Donc, nous, associations qui travaillons sur les populations les plus fragilisées par le VIH et qui cumulent les vulnérabilités, finalement, on a le mérite d'exister, mais quelque part, si on n'a pas le premier étage de la fusée, on arrive un peu tard, en fait. Aujourd'hui, en fait, on sait qu'on a deux gros outils qui sont efficaces contre le VIH, c'est le préservatif et la PrEP, qui est le traitement préventif de lutte contre le VIH, donc c'est le fait de pouvoir prendre un médicament avant une relation sexuelle pour les populations les plus vulnérables. Donc ça fonctionne aujourd'hui, mais sauf que personne ne le sait, parce que ce n'est pas communiqué auprès de la population.
D'autant que les préservatifs sont remboursés maintenant, hein.
Ouais, ils sont remboursés, mais je veux dire, pour un jeune aujourd'hui, aller chercher sa carte, parce que c'est un fonctionnement par carte, aller chercher sa carte pour pouvoir aller ensuite chez le pharmacien obtenir ses capotes, c'est deux opérations. Enfin, honnêtement, un jeune, il n'a pas le temps de faire ça, il s'en occupe pas. Il va plutôt aller dans une association qui lui distribue des préservatifs gratuits.
Est-ce qu'il faudrait aussi généraliser les tests sont généralisés, les autotests, ça coûte quoi, 10 euros, est-ce qu'il faudrait aussi les rembourser?
Ah ben les tests coûtent beaucoup. Les tests, les autotests, vous voulez dire?
Les autotests.
Ouais, les autotests coûtent beaucoup plus cher que ça. On est sur un prix qui tourne entre 18-20 euros. Bon, déjà, on voit qu'il y a une limite à l'achat, puisque c'est assez discriminant, ça a quand même un certain coût. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir les rembourser, parce que on voit bien que le nombre de nouvelles contaminations, déjà, ce sont des diagnostics tardifs pour un tiers d'entre eux, et puis c'est surtout que la moitié de ces nouvelles contaminations sont des découvertes de séropositivité, où les personnes se faisaient dépister pour la première fois. Donc il y a vraiment un problème de dépistage à la base. Il faut inciter les personnes à se faire dépister, quelles qu'elles soient, pour pouvoir mettre un terme au VIH. C'est le secret, c'est la base. On n'a pas de traitement, en fait. On a un traitement qui va contrôler le VIH, mais qui ne va pas guérir. Donc le seul moyen, c'est de dépister, de mettre les gens sous traitement. Parce qu'on sait qu'une personne sous traitement, avec un traitement efficace, devient détectable et ne transmet plus le VIH.
Donc une meilleure éducation sur la santé sexuelle auprès des jeunes et dans les médias, un dépistage précoce. Comment sont pris en charge les malades aujourd'hui ?
Ah bah ils sont complètement, les personnes qui vivent avec le VIH sont complètement pris en charge par la sécurité sociale, hein,
donc là aussi on progresse, on peut dire que même la France est en pointe dans le traitement des malades.
Comme sur toute pathologie, on a quand même un système français qui fonctionne plutôt pas mal. Après, la question, c'est celle des restes à charge, en fait, pour certains traitements qui vont être plus compliqués ou sur les problématiques de comorbidité, donc à savoir des maladies opportunes qui peuvent s'associer au VIH. Après, la question qui peut se poser derrière aussi, c'est la question de la représentation de la pathologie, puisque aujourd'hui, une personne qui dit qu'elle vit avec le VIH, dans la société, la représentation, elle n'a pas tellement bougé dans les années 90. Comme on parle de VIH, on parle forcément de contamination par voie sanguine ou sexuelle, et le regard de la société, encore une fois, il n'a pas changé, et que la discrimination dont bénéficient les personnes qui vivent avec le VIH, elle est toujours là, en fait. Voilà. Elle est énorme d'un point de vue professionnel, d'un point de vue aussi affectif et sexuel, et puis à partir du moment où vous avez un projet professionnel, avoir accès à des prêts ou avoir accès à des assurances, alors là, c'est le parcours du combattant.
Voilà, beaucoup de progrès encore à faire. Rappelons qu'on peut vivre aujourd'hui avec le sida mais qu'on ne le guérit pas, qu'un million de personnes en meurent chaque année dans le monde et que la recherche a donc encore besoin de nous tous. Au 110, numéro de téléphone jusqu'à demain soir. Et puis sur le site mail sidaction.org, le sidaction qui se poursuivra évidemment bien après cette opération-là proprement dite. Aurélien Bocan, président de l'association Aide, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En merci sport, la Ligue 1 de football, nouvelle déconvenue des Marseillais à Bordeaux hier soir. L'OM battu 2-0 et qui peut faire une croix, sauf miracle, sur la Ligue des Champions la saison prochaine. En rugby, l'affiche du top 14 à 14h45, le choc des gros, Toulon-Toulouse. Match délocalisé au stade Vélodrome, des Toulonnais en perte de vitesse, des Toulousains leaders qui font cette année leur grand retour en force, Jérôme Val.
190 comme le nombre de jours qui sépare Toulouse de sa dernière défaite en championnat, c'était il y a plus de 6 mois. Sur les 27 rencontres disputées cette saison en championnat et en Coupe d'Europe, les Rouges et Noirs affichent une réussite insolente, 22 victoires, 2 nuls et 3 petits revers seulement. L'arrière Maxime Médard.
En début de saison, on savait pas trop où on allait. En Coupe d'Europe, on nous avait prédit l'enfer. On se retrouve en demi de Coupe d'Europe. On se retrouve premier du championnat. Franchement, c'est assez incroyable.
Toulouse renverse tout sur son passage. Le club reste sur 14 matchs sans défaite en championnat. Un record depuis la création du top 14. Après un palmarès vierge depuis 7 ans, le revoilà de retour, comme le remarque la jeune pépite Romain Tamac.
Même si je faisais pas encore partie de l'effectif, j'étais quand même au club et je voyais un peu le mal qu'il y avait. L'année où je suis arrivé, tout le monde a pris conscience de remettre le stade en tête d'affiche un peu. Donc c'est vrai que ça, il y a eu beaucoup de travail, il faut surtout pas s'arrêter là.
Ce mois d'avril donnera une indication précise sur la capacité de Toulouse à redevenir le plus fort, avec des déplacements à Toulon cet après-midi et au Leinster en Coupe d'Europe et les réceptions de Clermont et de Castres.
Toulon, Toulouse, coup d'envoi 14h45 à Marseille. Allez, l'Italie à Paris, l'Italie, sa culture, sa littérature, c'est le festival Italissimo jusqu'à mardi. Un festival dont on peut profiter partout en France, à travers notamment le catalogue d'une éditrice franco-italienne, Liana Levi, dont la nouvelle collection se consacre justement aux grandes voix italiennes. C'est son titre, les grandes voix italiennes, qui pourraient s'appeler les grandes plumes, puisqu'on y trouve à prix modique quelques-uns des meilleurs auteurs de la péninsule, Ilana Moriusef.
Ce sont des livres à peine plus grands qu'un format poche et tellement jolis qu'on peut sans difficulté en faire des cadeaux. L'éditrice Liana Levi les réédite sous le label Grande Voix Italienne. Le moment est venu, dit-elle, de faire redécouvrir ses auteurs.
Le sentiment que j'ai, c'est que l'Italie est restée très mal connue. En tout cas, la littérature italienne a été traitée en mineur lorsque j'ai commencé à publier en 82 et qu'elle est restée pendant très longtemps.
Il y a eu quelques best-sellers, Milena Agus, Roberto Saviano, Elena Ferrante. Avec les grandes voix italiennes, Liana Levi veut aller plus loin.
Je commencerai par celle qui me tient le plus à cœur, qui est Natalia Ginzburg. J'ai toujours été très étonnée que cet auteur, qui pour les Italiens est incontournable, soit resté dans l'ombre en France aussi longtemps.
Et comment résister au grand écrivain de Venise ?
Il y a évidemment un auteur pour lequel j'ai une tendresse particulière, c'est Pasinetti. Beaucoup de ses livres portent une référence à la ville de Venise parce qu'il est celui qui a mis en scène la ville de Venise dans ses profondeurs, dans sa réalité vraie, pas la Venise touristique qui est tellement, tellement éloignée de ce que vivent les Vénitiens.
On peut citer aussi Rosetta Loy, injustement tombée dans l'oubli. Cette nouvelle collection regorge de merveilles.
Les grandes voix italiennes aux éditions Liana Levi. Tout le programme du festival Italissimo sur italissimofestival.com. À propos de festival, ça commence à sentir l'été avec quelques premiers rendez-vous. Pour la BD, le festival de Bastia, Cyril Pedrosa y sera, lauréat du prix BD France Inter. Festival de Marne-la-Vallée également, avec des spectacles comme Les Trois Brigands, en hommage à Tommy Ungerer. Côté cinéma, rendez-vous à Beaune avec le 11e festival du film policier et puis de la musique avec les pianistes sœurs Katia et Marielle Labec à la Philharmonie de Paris. Participation exceptionnelle de Thom Yorke pour un voyage à travers la musique, y compris la minimaliste Dream House. Le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Les températures de l'après-midi vont afficher 16 à 18 degrés sous l'ambiance plutôt ensoleillée qui va se dégager des frontières suisses et allemandes en allant vers le nord de la Seine. Par contre, plus à l'ouest et au sud, dans une moyenne de 15 degrés, les pluies parfois marquées de la matinée sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine vont se décaler vers la Corse, l'est du Rhône, le centre et la Bretagne. Et progressivement, dans l'après-midi, un ciel d'averse et d'orage va se mettre en place du sud-ouest au bord de la Méditerranée, avec un vent très turbulent, notamment du golfe du Lion au delta du Rhône, et il va neiger à moyenne altitude sur tous les massifs du sud. Demain, l'ouest va conserver un temps instable. Près des frontières de l'est et de la Belgique, les ondées seront plus rares. Entre les deux, malgré un ciel chargé, le temps va rester sec.